Grenoble, Alpes, Métropole présente Presse Citron, des conférences acidulées pour parler de demain. Vous écoutez Salomé Sacquet, journaliste et autrice de « Sois jeune et tais-toi », une enquête sur les conditions climatiques et sociales auxquelles font face les jeunes.
Merci beaucoup à la Métropole de Grenoble pour cet accueil et merci beaucoup beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux ici. J'avais vraiment peur d'être face à une salle vide. On a rempli deux salles, c'est extraordinaire. Ceux qui sont dans la salle d'à côté, si vous voulez réagir à mes propos, n'hésitez pas à vraiment faire beaucoup de bruit pour qu'on vous entende quand même ici, dans cette salle-là et dans le podcast, à applaudir très très fort ou à huer si vous n'êtes pas d'accord. Je suis vraiment très honorée d'être face à vous un jeudi soir à 18h30, que vous vous soyez déplacés aussi nombreux et nombreuses. Et je vois qu'on a un public très intergénérationnel quand même. Donc je suis encore une fois très ravie de constater ça, parce que l'objet de la conférence d'aujourd'hui, l'objet de mon travail, c'est de rétablir un dialogue intergénérationnel. J'y reviendrai. Je vois qu'on a même un très très jeune au fond de la salle. Vraiment un bébé dans le public. Je suis extrêmement honorée. Donc je vais commencer avec cette phrase. Moi, de mon temps, je peux te dire que nous, les jeunes, on se bougeait et qu'on se plaignait pas. Qui, ici, n'a jamais entendu une phrase qui commence par « moi de mon temps » ou « moi à mon époque » dans sa vie? Eh bien, quasiment personne, probablement. Soit vous l'avez entendu, soit vous l'avez prononcé, peut-être, récemment. Car cette vieille rengaine existe depuis très longtemps et, à mes yeux, elle devient de plus en plus problématique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, pour ça, je vais vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Peut-être, enfin, c'est sûr qu'il y en a qui ne me connaissent pas ici, donc je suis journaliste et j'ai commencé à faire de la télé assez tôt, en tout cas dans mon milieu, pour parler d'économie, de politique, d'écologie. Et donc, à 23 ans, j'ai été mise sur mes premiers plateaux télé. 25 ans, j'étais déjà, je me considérais comme impliquée, travailleuse, presque obsessionnelle de la vérification des faits. Et de manière générale, quand je voulais parler d'écologie, quand je voulais parler de jeunesse, quand je voulais parler d'économie, j'adoptais ce que certains qualifieront de ton plutôt engagé. Et j'ai eu beau travailler de toutes mes forces, essayer de porter les résultats de mes enquêtes, de la documentation que je pouvais produire sur ces fameux plateaux de télévision, ça ne suffisait pas toujours pour être entendu. Et souvent, mes discours étaient taxés d'idéalistes, d'irréalistes. On m'accusait parfois d'avoir des problèmes avec le pragmatisme. Et dans les coulisses, souvent, on m'a confondu avec la stagiaire. Ou alors, quand j'étais avec des collègues avec qui j'allais passer sur le plateau de télévision, eh bien, on me parlait de la longueur de mes cheveux. Ça, c'est visiblement un gros sujet. Au lieu de me parler, tout simplement, d'économie, d'écologie, de politique, de ce dont j'allais parler. Et je pense qu'une partie de ces réflexions que j'ai pu recevoir était due à mon âge. Alors là, au moment où je vous parle, j'ai 28 ans. Donc, je suis en train de m'éloigner doucement de la jeunesse. Mais à cette époque-là, j'étais la petite jeune du plateau, celle qu'on prenait quand même souvent pas vraiment au sérieux. Parce qu'à 25 ans, on s'imaginait que je n'avais pas assez d'expérience finalement pour pouvoir donner une analyse qui vaille le coup d'être entendue pour vraiment avoir une discussion sérieuse et constructive avec moi. Et donc ce ton légèrement condescendant à mon égard, je pensais au début que c'était propre à la télévision et que c'était lié à voilà, ma position. Et en fait, en parlant autour de moi, en parlant avec les jeunes de mon âge, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à subir ce regard un petit peu condescendant des plus âgés qui vont dire « bah oui, mais moi aussi à mon époque je pensais ça » ou le fameux « Tu verras, quand tu grandiras ou quand tu avanceras dans la vie, tu abandonneras ton idéalisme. » Et c'est une manière de disqualifier d'entrée ce que va dire une personne plus jeune par rapport à une personne plus âgée, parce qu'on gage que cette personne manque d'expérience et donc qu'elle sait moins, que son avis vaut moins. Et moi, tout l'objectif de mon travail, c'est de dire que la parole des jeunes vaut autant le coup d'être écoutée que la parole des plus âgés, et que ce n'est pas parce qu'on a moins d'expérience que notre parole est moins légitime. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment la direction que prend notre société. Aujourd'hui, les discours dits anti-jeunes, ou ceux que je qualifie d'anti-jeunes, ont la cote chez une partie de la population. Alors attention, j'appelle à ne pas mettre tous les jeunes dans le même panier, donc j'appelle aussi forcément à ne pas mettre tous les vieux dans le même panier. Il y a des personnes de plus... Alors, je ne vais pas donner un âge, parce que sinon, je vais créer une fracture. Mais il y a des personnes de plus d'un certain âge, des personnes, des seniors, comme on dit, qui sont engagés aux côtés des jeunes, qui ont cette écoute attentive, qui n'ont pas du tout cette attitude condescendante que j'ai pu décrire. Mais par contre, il y a, et il existe notamment dans l'espace médiatique, des personnes d'un certain âge qui se permettent non seulement des critiques, mais une stigmatisation assumée de la jeunesse sans que ça ne choque personne. Et ça, pour moi, c'est la preuve de la considération qu'on apporte en tant que société aux jeunes. C'est qu'on peut tolérer collectivement qu'un magazine titre « Génération narcissique ». On peut imaginer qu'un journaliste que je ne nommerai pas puisse écrire un livre entier intitulé « Ok, Millennials », que je vous invite vivement à lire, en stigmatisant une génération tout entière, en expliquant que les jeunes de sa génération étaient bien mieux que les jeunes d'aujourd'hui, et que les jeunes d'aujourd'hui sont narcissiques, égoïstes, ultra-sensibles, victimaires, voire dangereux ou dénués d'humour, si ça a été écrit. Et ça ne nous choque pas collectivement, cette personne peut être invitée sur les plateaux de télévision, au micro de certaines radios, et on ne va pas être choqué de ce discours-là. Imaginez si moi, j'avais écrit un livre où je dis que les boomers sont une génération d'égoïstes, d'incapables, qui sont ultra sensibles, à qui on ne peut rien dire et qui sont dangereux. Je pense que ce serait inadmissible, ça aurait fait scandale. Et pourtant, quand c'est fait dans l'autre sens, quand on stigmatise les plus jeunes, ça passe. Et ça, c'est ce que j'ai voulu aussi dénoncer. On pourrait aussi évoquer une couverture d'un magazine modéré, intitulé « Valeurs actuelles », qui a sobrement intitulé un de ses numéros « Quels jeunes allons-nous laisser à la planète ?» Très spirituel. Là encore, bon après, comme toutes les couvertures de Valeurs actuelles, finalement, ça n'a pas fait scandale. En tout cas, ça passe. On accepte d'avoir vraiment un dossier entier consacré à cette jeunesse qui est complètement décadente et qui, visiblement, serait, selon le magazine, en train de détruire la planète, ce qui est quand même cocasse. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même, on donne beaucoup d'écho à ces propos anti-jeunes, à ces propos qui stigmatisent des jeunes. On a des experts sur les plateaux de télévision en pleine pandémie qui vont nous expliquer que les jeunes sortent, ne respectent pas leurs aînés, qui sont complètement irresponsables, et ça ne choque pas. Alors, au même titre que je ne voudrais pas qu'on stigmatise quelques parties de la population que ce soit, j'aimerais qu'on arrête de stigmatiser les jeunes, et quand ils sont stigmatisés, qu'on trouve ça tout à fait aussi inadmissible. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que je vais répondre à cette question que vous vous posez tous. Est-ce que vous êtes encore jeune ? Quelle est la définition de la jeunesse ? C'est une question que je me suis posée avant de commencer cette enquête sur les jeunes. Évidemment, la jeunesse n'est qu'un mot, disait le sociologue Pierre Bourdieu. Il n'y a pas un âge de péremption où on devient vieux tout d'un coup, mais il a bien fallu poser un cadre, délimiter un âge. Donc moi, j'ai choisi de m'appuyer sur les statistiques de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques, qui nous dit qu'on est jeune jusqu'à 29 ans. Voilà. Et c'est plutôt large. Et c'est une définition plutôt large. Je sens que ça crie, j'entends crier de l'autre côté. Alors, encore une fois, bien sûr qu'on peut être jeune dans sa tête, évidemment. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a quand même des caractéristiques qui sont propres à cette classe d'âge-là et qu'on ne vit pas la même chose, et surtout on ne vit pas au même âge, à la même époque, selon que l'on a 20 ans aujourd'hui ou que l'on a 60 ans. Donc il y a des différences en fonction de notre âge. Et je pose une précaution absolument fondamentale. La grille de lecture générationnelle, qui est celle que je vais vous proposer aujourd'hui, n'est pas et ne doit surtout pas être la seule grille de lecture. Elle n'exclut pas la grille de lecture des classes sociales, des territoires, tout ce qui fragmente aujourd'hui la société. C'est une grille de lecture en plus que j'essaie de proposer parce que je crois qu'elle a une pertinence sur de nombreuses thématiques économiques ou écologiques, mais mon objectif n'est surtout pas d'opposer les générations ou de dire que c'est le biais de lecture qu'on doit adopter pour toutes les crises de notre société. C'est simplement un outil de plus que je propose pour comprendre les enjeux, les conflits auxquels on doit faire face aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai mené l'enquête pendant un an et demi auprès des jeunes que je suis allée interroger dans des territoires différents, de classes sociales différentes, avec des opinions politiques différentes, pour essayer de comprendre ce que vivent les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les divise également, pour essayer de dresser un peu cette fresque de la jeunesse qui permettrait aux plus âgés, qui sont parfois dans l'incompréhension quant à nos pratiques, notamment sur le numérique au hasard, de comprendre pourquoi les jeunes agissent de cette manière. Encore une fois, il ne s'agit pas là de dresser une défense aveugle de la jeunesse en disant que c'est une génération parfaite, sans contradiction, mais simplement d'apporter de la nuance, d'apporter des outils de compréhension et de décrire les paramètres socio-économiques, les paramètres politiques dans lesquels les jeunes d'aujourd'hui évoluent. Et donc, Les conclusions de cette enquête qui se sont déroulées sur le terrain avec des jeunes évidemment, mais aussi en rassemblant les travaux sociologiques qui existent déjà sur le sujet, les travaux économiques, m'ont amené à développer trois grandes conclusions que je vais vous exposer ici aujourd'hui. Premièrement, ce qui définit avant tout les jeunes, et, enfin les jeunes en tout cas les paramètres encore une fois socio-économiques, c'est la précarité à laquelle ils sont exposés, c'est les difficultés d'insertion dans les études et les difficultés d'insertion sur le marché du travail qui font que les emplois des jeunes sont fragilisés, ça crée beaucoup de détresse, ça crée beaucoup de problèmes chez les jeunes, en tout cas beaucoup de préoccupations. La deuxième chose qui rassemble énormément de jeunes, c'est l'urgence écologique, c'est-à-dire que l'on appartient à une classe sociale très aisée ou très modeste, on ne va pas subir exactement de la même manière le réchauffement climatique, mais on va devoir y faire face, et surtout on va devoir y faire face plus longtemps et de manière plus intense que les plus âgés. Et puis le troisième axe, c'est le rapport des jeunes à l'engagement. Et là, je pense qu'on est quand même au bon endroit pour parler de ça. On accuse souvent les jeunes d'être dépolitisés, d'avoir du désintérêt pour la chose publique, de ne pas vouloir s'impliquer. Et ce qui ressort de mon enquête et en réalité des différentes études qui ont été menées sur le sujet, c'est que les jeunes ont une manière de se politiser qui est différente, mais ça ne veut surtout pas dire qu'ils n'en ont rien à faire. Donc je vais commencer par la question économique. Je le disais, premièrement, être jeune aujourd'hui, en 2024, ça veut dire avoir plus de chances que le reste de la population d'être exposé à la précarité. Alors attention, encore une fois, quand je dis les jeunes, ça implique le dernier fils de Bernard Arnault, par exemple, qui va très très bien, qui peut reprendre tranquillement les entreprises de sa famille. Donc évidemment, il n'est pas exposé à la précarité de la même manière qu'un jeune qui est issu de milieux très défavorisés, qui a des difficultés d'accès aux études et qui ne peut même pas toucher le RSA. Donc la jeunesse, encore une fois, c'est un groupe très large. Ça regroupe toutes ces personnes, mais les jeunes, globalement, sont les premiers précaires en France. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Aujourd'hui, les moins de 26 ans représentent la moitié des files d'attente au Resto du Cœur pour avoir de l'aide alimentaire. Et pourtant, les jeunes en France sont une minorité démographique. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, ceux qui sont nés du baby boom, donc après la Seconde Guerre mondiale, sont majoritaires dans la société. Les 18-29 ans sont deux fois moins nombreux que les plus de 60 ans. Ceux qui sont en position de pouvoir économique et de pouvoir par le nombre, ce sont les plus de 60 ans en France. Et il faut vraiment avoir ça en tête quand on dit aux jeunes de se bouger, que quand même, ils pourraient faire un effort, parce qu'aujourd'hui, quand bien même les jeunes voudraient tout changer, ils ne le pourraient pas. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a un quart des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est évidemment bien plus que la moyenne nationale. On a un étudiant sur deux qui ne peut pas se chauffer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste un petit passage de vie. Là, je fais référence à mon oncle Jean-Michel. Alors, je vais beaucoup parler de Jean-Michel. Et la dernière fois que j'ai fait ça, il y a un vrai Jean-Michel qui est venu me voir à la fin de la conférence pour me dire que j'avais stigmatisé les Jean-Michel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de Jean-Michel dans la salle ? C'est bon ? On peut continuer, j'espère qu'à côté ça va aussi. Donc on va prendre l'exemple de Jean-Michel parce que c'est un petit peu la figure de cet oncle qui parfois va avoir des commentaires qui ne sont pas méchants mais qui reposent sur une ignorance de ce qu'on vit. Donc dire à un jeune qu'il faut qu'il se bouge, c'est avoir une profonde méconnaissance du milieu professionnel et de la situation économique dans laquelle les jeunes évoluent, parce que les jeunes n'ont pas toujours été à ce point plus pauvres que le reste de la population. Les conditions de travail des jeunes qui sont très dégradées aujourd'hui ne l'ont pas toujours été à ce point par rapport au reste de la population. Et alors là, en faisant mes études, j'ai découvert, et je pense que les plus jeunes ici seront peut-être choqués, que dans les années 70, le CDD, l'intérim, le statut d'auto-entrepreneur, que Emmanuel Macron aime beaucoup, n'existait pas. C'est-à-dire que nos grands-parents, quand ils arrivaient sur le marché de l'emploi, ils avaient très rapidement un CDI. Ils avaient la protection sociale qu'implique un CDI, la sécurité psychologique qu'implique un CDI, la capacité à accéder au logement qu'implique un CDI. Aujourd'hui, la majorité des emplois des jeunes, ou en tout cas les deux tiers des premiers emplois des jeunes, sont des emplois dits précaires, c'est-à-dire que c'est le fameux statut d'auto-entrepreneur, l'intérim, le CDD, ces emplois où on ne sait jamais s'ils vont pouvoir durer. Et contrairement aux idées reçues, la plupart du temps, c'est une situation qui est subie. L'espèce de figure qu'on a du jeune qui voudrait voyager à travers le monde et qui ferait exprès de n'avoir que des CDD, ça existe effectivement, mais ça ne représente pas la majorité des jeunes. Donc ça, j'aimerais qu'on l'ait vraiment bien en tête. Aujourd'hui, encore une fois, on a 60% des jeunes qui déclarent avoir des difficultés matérielles. Et j'ai parlé des années 70, il y en a qui vont me dire « Oui, mais nous, dans les années 90, on avait le chômage de masse. » Et effectivement, je ne prétends pas que tout était rose pour les générations précédentes, mais un chiffre pour quand même avoir une idée de la comparaison entre la précarité de l'emploi. En 1982, on avait 17% des emplois des jeunes qui étaient des emplois précaires. Aujourd'hui, on est à 52%. C'est plus d'un emploi sur deux qui est un emploi jeune, qui est un emploi précaire. Et ça, ça crée beaucoup de stress. Et je rajouterais que ce sont globalement des emplois qui sont moins payés. Et c'est des emplois qui restent plus longtemps moins payés. C'est-à-dire que c'est pas un petit passage. C'est pas, t'as 20 ans, 22 ans, tu galères un petit peu, mais dans quelques années, tu rattrapes ce salaire. Non, ce que nous montrent les études, notamment le travail du sociologue Camille Penny, c'est que c'est un retard qui ne se rattrape pas. C'est-à-dire qu'on est perdant, et on commence à le voir aujourd'hui sur les générations de trentenaires, sur un temps plutôt long. Et donc, on arrive, encore une fois, à ces chiffres accablants en ce qui concerne la précarité, en ce qui concerne la difficulté au travail, parce que quand on n'a pas beaucoup de travail pour les jeunes, qu'on a des emplois qui sont précaires, les jeunes se retrouvent à accepter des travaux qui sont très pénibles. Et là, j'aimerais vous parler d'un article qui est paru dans Le Monde. J'en ai jamais parlé encore en conférence, parce qu'il est paru il y a quelques jours. Et il s'appelle, c'est une enquête, ça s'appelle « À moins de 30 ans, leur corps déjà abîmé par le travail ». Ça a quelque chose de déprimant de se rendre compte qu'on est toutes cassées si jeunes. Et là, vraiment, tous ceux qui doutent du fait que les emplois des jeunes seraient difficiles, je vous invite vraiment à lire cet article, à lire cette enquête, à lire ces témoignages de jeunes qui sont déjà abîmés physiquement, psychologiquement, de manière très avancée, avant 30 ans, à cause des travaux précaires qu'ils effectuent. Et le journaliste Vincent Hédin avait complété cette enquête dans une publication en se basant sur les statistiques de la DARES. Et il écrit « On voit des courbes follement ascendantes sur des items tels que porter des charges lourdes, effectuer des déplacements à pied fatigants, rester longtemps dans une posture fatigante. Pour tous ces cas, le monde du travail de 2024 est bien plus dur que 1984. Le merveilleux numérique tout artificiel a en réalité des métiers de soutier. Logisticien en entrepôt, préparateur de commandes, livreur, autant de versions modernes, des métiers du 19e siècle qui n'ont aucune considération, aucun syndicat pour les défendre, comme dans la plus noble industrie. » Donc c'est pas parce qu'on est dans le tout numérique, c'est pas parce que vous recevez vos colis tranquillement à la maison que derrière il n'y a pas des personnes réelles qui se tuent au travail. Et ces personnes-là, qui sont dans ces métiers éreintants, sont de plus en plus des jeunes. Donc on a une véritable souffrance au travail qui s'est développée, notamment pour les jeunes les moins développés. Et là encore, là je vous fais un peu un tableau un peu difficile, je vous promets qu'après il y a un peu d'espoir, hein. Je ne plombe pas complètement l'ambiance toute la soirée, mais c'est pour vous montrer les difficultés auxquelles, encore une fois, sont confrontés les jeunes, même les plus diplômés, puisque les diplômes ont perdu en valeur sur le marché du travail au fur et à mesure que les années ont passé. Et donc, deux choses. Premièrement, les jeunes restent une variable d'ajustement en temps de crise. C'est-à-dire que non seulement leurs emplois sont précaires, leurs emplois sont mal payés, mais quand il y a une crise, ce sont les premiers à être licenciés. Ce sont les premiers à ne pas être embauchés. C'est quelque chose qui a été extrêmement clair pendant la crise de 2008 et qui a été extrêmement clair pendant la pandémie. Ça, ça fait partie des témoignages que j'ai reçus. Pendant le Covid, les premiers qu'on n'a pas embauchés, ça a été les jeunes et donc notamment la génération de nouveaux diplômés. On constate que ce sont ceux qui ont eu la moins bonne insertion professionnelle. Il y a eu une sorte de génération sacrifiée pour la génération de 2020, ceux qui arrivaient sur le marché du travail à ce moment-là. Ils n'ont pas été embauchés parce qu'évidemment, dans une entreprise, on va garder ceux qui étaient déjà là, on va garder ceux qui ont une forme d'ancienneté, on va garder ceux qui ont les contrats qui protègent le plus et les premiers qu'on va laisser partir, pour employer un euphémisme, eh bien, ce sont les jeunes, ce sont ceux qui sont en CDD, ce sont ceux qui étaient en alternance. Donc ça a causé énormément de souffrance. Donc ce marché du travail, il est quand même très difficile, très compliqué pour les jeunes, il est compliqué d'accès. Et ensuite, parce que c'est pas terminé, on va se dire, mais pourquoi les jeunes, une fois qu'ils ont enfin un travail, pourquoi ils ne le gardent pas? Pourquoi ils n'investissent pas toute leur vie et tout leur temps et toute leur énergie dans ce travail qui est censé être au centre de leur vie? Eh bien, plusieurs raisons à ça. Déjà, beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans voient leurs parents qui ont 50, 60 ans, arriver en fin de carrière et pour certains être complètement cassés. Pour certains, avoir une santé qui est dégradée. Et ils voient bien, et ça a été très marqué pendant la réforme des retraites et la contestation contre la réforme des retraites, que pour eux, ça ne vaut pas le coup de mettre le travail au cœur de sa vie de cette manière, si c'est pour finir dans cet état-là, en fait, tout simplement. Donc ils n'ont pas forcément envie de s'impliquer à ce point dans le travail. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Ça veut dire qu'ils veulent un équilibre avec leur vie personnelle. Ils ne veulent pas, surtout quand leur travail n'est pas un métier passion, que ce soit le centre de leur vie. Et puis surtout, avoir un travail aujourd'hui, ça ne permet pas et ça ne permet plus les mêmes choses qu'il y a 30 ans, 40 ans, notamment en termes d'accès à l'immobilier. Avant, c'était un peu le parcours classique. On allait avoir un CDI, on allait faire un prêt, on allait acheter un appartement ou une maison, on allait avoir accès à un certain pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ce pouvoir d'achat s'est considérablement réduit, notamment en termes d'accès à l'immobilier. Et alors là, je pense que ceux qui sont dans la vie active comprendront très bien de quoi je veux parler. Je peux même parler de mon cas personnel. Je suis journaliste, je suis en CDI, je suis à la fin de ma vingtaine, j'habite à Paris, a priori tout va bien, et pourtant je ne peux pas avoir accès à un prêt immobilier qui me permettrait d'avoir accès même à 18 mètres carrés dans la capitale, parce que je suis arrivée trop tard. Je n'ai pas investi au bon moment. Et oui, les prix de l'immobilier ont explosé. À Paris, les prix de l'immobilier depuis 1995 ont été multipliés par 5. Sur l'ensemble de la population, enfin sur l'ensemble du territoire, ça a été multiplié par 3. Résultat, eh bien, ceux qui possèdent de l'immobilier en France, ce sont des vieux. En tout cas, on peut dire, encore une fois, je ne dis pas que les plus de 50 ans, ce sont des vieux, mais 70% des multipropriétaires immobiliers ont plus de 50 ans. Donc ce qui se passe pour les jeunes d'aujourd'hui qui arrivent avec cet immobilier, qui a explosé, c'est qu'ils arrivent à une partie de Monopoly au 10e tour. Ils ne peuvent pas gagner. Notre seul tort, ça a été de ne pas investir à temps. Et donc on aura beau travailler, on aura beau tout donner, on ne peut pas rattraper le retard qu'on a pris. Ces investissements, ils étaient possibles même dans les années 70-80 pour un couple d'ouvriers. C'était possible de prendre un prêt et d'avoir accès à un immobilier qui allait prendre de la valeur au cours de leur vie. Aujourd'hui, si on n'a pas hérité, si on n'a pas un apport, si on n'a pas un capital de départ, cet investissement est rendu extrêmement difficile. Et donc forcément, ça a un impact sur le monde du travail. Parce qu'à quoi bon travailler dans des emplois qui sont de plus en plus difficiles, où on a de moins en moins de protection pour de toute façon ne pas pouvoir acheter grand-chose? C'est ça, en fait, les enjeux qui sont les enjeux des jeunes aujourd'hui. Et donc, on rajoutera à tout ça la panne de l'ascenseur social, qui n'a jamais complètement existé. Je ne vais pas vous faire un cours entier sur la méritocratie, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une concentration des richesses qui est de plus en plus importante. Pour vous donner une idée, dans les années 70, il y avait environ 35% de ce qu'on possédait qu'on avait hérité. Aujourd'hui, on est à 60%. Ça, c'est les chiffres du Conseil d'analyse économique. Donc, quand bien même, on va dire aux jeunes, mais allez-y, travaillez, vous pouvez changer de classe sociale à la sueur de votre travail, eh bien, c'est malheureusement faux. On ne peut pas rattraper le retard qu'on a pris sur les héritiers. Et plus ça va, plus on est dépendant de cet héritage. Et le Conseil d'analyse économique met en garde d'ailleurs sur le fait que la France est en train de redevenir une société d'héritiers. Et donc, pour conclure sur la partie économique, les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le monde du travail, dans le monde des études d'ailleurs, puis dans le monde du travail, arrivent avant tout dans un monde où les inégalités, la reproduction des inégalités est de plus en plus puissante. Et ils ont de moins en moins de possibilités d'échapper aux déterminismes sociaux. Ça se retrouve dès l'école primaire. On le voit dans les rapports PISA qui nous montrent que les établissements scolaires en France, l'école en France, est l'une des plus reproductrices d'inégalités des pays de l'OCDE. Donc il y a des mécanismes extrêmement forts qu'on va retrouver dans les études supérieures où on a une concentration de plus en plus accrue des enfants de cadres ou de professions libérales dans des études supérieures qui vont donner accès après à des métiers qui sont mieux rémunérés. Et on a une surreprésentation des enfants d'agriculteurs ou des enfants d'ouvriers dans les endroits où il y a peu de diplômés et dans les professions qui sont les moins bien rémunérées par la suite. Donc ces mécanismes sociaux, ils font beaucoup de mal parce que ce qu'on dit aux jeunes, c'est quand tu veux, tu peux. Et la réalité sociale, la réalité économique qui a été décrite notamment par la sociologue Chantal Jacquet, c'est quand tu peux, tu veux. Et ça, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts psychologiques chez énormément de jeunes parce que ça crée un sentiment d'échec. Ils sont dans une école où on leur dit « mais vas-y, bouge-toi », alors que tout ce que je viens de vous décrire, c'est qu'ils sont avant tout confrontés à des injustices, à des inégalités, à des mécanismes sociaux qui sont extrêmement puissants. Et donc, on arrive à ces chiffres qui sont quand même assez accablants sur la santé mentale des jeunes. Alors, c'est une très grande question qu'on me pose souvent. Pourquoi beaucoup de jeunes vont aussi mal? Évidemment, il n'y a pas une réponse à ça. Mais ce qu'on constate, et ce qui est peut-être moi le message que je voudrais qu'on retienne de cette conférence, c'est qu'une partie des jeunes en France est en train de sombrer. Est en train de sombrer psychologiquement. C'est un enjeu de santé publique absolument majeur qui est sous-estimé et qui n'est pas traité politiquement. Pour vous donner une idée, on a un jeune sur cinq aujourd'hui qui présente des troubles dépressifs. Tout ce que je vais vous donner, ce sont les chiffres de Santé publique France. Ce sont des chiffres officiels. C'est deux fois plus qu'en 2017. Les pensées suicidaires ont été multipliées par plus de deux chez les jeunes depuis 2014. Donc on est passé de 3,3% des jeunes à 7% des jeunes qui ont des pensées suicidaires. C'est-à-dire qu'ils vont tellement mal qu'ils ont envie de mettre fin à leur jour. Ils ont envie de mourir. Enfin, ce ne sont pas que des pensées, puisqu'on a également une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes. Rien qu'en 2022, les tentatives de suicide déclarées ont augmenté de plus de 60%. Et je donne 2022 à dessein parce que ce n'est pas une année Covid. En tout cas, c'est une année où le Covid a pris beaucoup moins de place. Donc, il y a eu une bascule en termes de santé mentale chez les jeunes au moment du Covid, mais c'est quelque chose qui est en train de s'installer dans le temps. On a une partie des jeunes qui va extrêmement mal. Et les jeunes, et c'est nouveau, ont plus de pensées suicidaires que tout le reste de la population. Donc, à partir de là, il faut quand même qu'on se pose des questions collectivement sur le monde qu'on a offert à ces jeunes-là, sur la société qu'on leur donne pour qu'ils aillent aussi mal, ou en tout cas pour qu'une partie d'entre eux aille aussi mal. À titre personnel, je suis convaincue que tout ce que je viens de vous décrire sur la situation économique, sur la reproduction des inégalités, sur toute la violence à laquelle ils peuvent faire face, c'est une des raisons. Une des deuxièmes raisons, c'est cette anxiété qui prend beaucoup de place chez les jeunes et qui est liée évidemment au contexte économique, mais aussi, attention, éléphant au milieu de la pièce, qui est liée à l'écologie, à la situation écologique. Et alors là, je vois déjà venir les critiques que j'ai beaucoup entendues sur le fait que les jeunes ne seraient pas écolos, et qu'ils ont un smartphone, et qu'ils prennent l'avion, et qu'ils mangent de la viande, voire qu'ils commandent sur Amazon, et donc qu'ils ne peuvent pas décemment exiger qu'on leur donne une planète habitable. Ce à quoi je répondrai qu'effectivement, la plupart des jeunes en France ne sont pas des militants écolos. Les jeunes n'échappent pas du tout aux tendances consuméristes, à participer à la société productiviste. Les plus privilégiés d'entre eux n'hésitent pas effectivement à utiliser leurs privilèges. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation, et c'est plus important chez les jeunes que chez le reste de la population, de l'éco-anxiété. Ça ne veut pas dire qu'on s'investit au quotidien, mais par contre, au fond de soi, on a peur. On sait que ce qui arrive, ça ne sent pas bon. On sait que notre avenir est compromis. On ne peut pas louper l'information. Il y a une partie des jeunes qui subsistent dans le climato-scepticisme, comme le reste de la population, mais la plupart des jeunes savent à quel point leur futur est compromis. Ils savent surtout que les personnes qui sont censées gérer leur avenir n'est pas du tout en train de le gérer et n'est pas du tout en train de leur assurer un avenir désirable. Résultat, selon une étude de la revue The Lancet, un jeune sur deux à travers le monde est atteint de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et c'est un chiffre que l'on applique également à la France. Résultat, les jeunes ont de plus en plus de difficultés à se projeter dans l'avenir. Et alors là, coucou Emmanuel Macron, le réarmement démographique ne va pas être possible si les jeunes n'arrivent pas à se projeter. Et je pense que ça, c'est quand même vraiment à quelque chose qu'il faut garder en tête. Je pense pas que le problème, l'unique problème, soit les déficiences en fertilité, même si bien sûr c'est aussi un souci. Moi je pense que vraiment on a une partie des jeunes qui n'arrivent tout simplement plus à se projeter dans l'avenir, et donc qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir avec un enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté en réalité pendant l'écriture du livre, donc avant qu'il y ait ce fameux effondrement de la natalité, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus marqué et quelque chose qui alerte visiblement beaucoup nos responsables politiques. Et pourtant, on n'a pas de politique digne de ce nom, non seulement de la jeunesse, mais on n'a pas de politique écologique digne de ce nom. Je ne vais pas revenir et faire un débat sur l'écologie, mais c'est en tout cas ce que nous dit le Conseil pour le climat, c'est que la politique actuelle du gouvernement français n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc c'est quelque chose que beaucoup de jeunes savent. Et ensuite, je rajouterai, parce que je ne vais pas trop plomber l'ambiance sur l'écologie, je rajouterais que globalement, on a quand même des jeunes qui sont plus exposés au réchauffement climatique que le reste de la population, en tout cas que les plus âgés. Donc je vais vous donner un chiffre. Une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc là, on touche du doigt l'inégalité générationnelle. Bien sûr qu'on est toutes et tous concernés par la crise écologique, évidemment. Par contre, on n'est pas concernés au même degré. Sans mauvais jeu de mots. On ne va pas y faire face de la même manière. Et pourtant, je l'ai dit au début, les jeunes sont moins nombreux. C'est-à-dire que là, on est en train de prendre collectivement des décisions en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne le réchauffement climatique, des décisions qui vont avoir des conséquences irréversibles. On ne pourra pas arriver, nous, les nouvelles générations, ou même les très jeunes générations, et dans 30 ans, on dira « Mais non, en fait, on s'est trompé. On s'est fourvoyé dans une société productiviste. Il faut de toute urgence changer de cap et mettre en place des politiques pour limiter le réchauffement climatique et adapter nos territoires. On doit le faire maintenant. » Et les personnes qui décident de ça sont globalement les personnes qui ne seront plus présentes à partir de quelques décennies. Et ça, moi, je trouve que ça pose une question démocratique. Et encore une fois, je ne veux pas du tout dire que les plus âgés se moquent complètement de l'avenir des plus jeunes, mais simplement appeler à avoir conscience de cette urgence et à avoir conscience de la nécessité de la mobilisation collective. On ne peut pas faire reposer sur les seuls jeunes tous les changements à venir. Et donc, on en arrive justement à cette inégalité générationnelle qui se caractérise dans l'accès au patrimoine, je l'ai dit, sur la question climatique, mais qu'on retrouve de manière générale dans la société, c'est-à-dire que qui a le pouvoir aujourd'hui en France, ce ne sont pas les jeunes. Ce ne sont pas les jeunes qui possèdent le pouvoir économique, ce ne sont pas les jeunes qui sont dans les institutions politiques. Bon, ça valait avant l'arrivée de Gabriel Attal, mais est-ce que c'est vraiment un jeune? Je pense qu'on peut quand même en douter. En tout cas, ça montre d'ailleurs que l'âge n'est pas gage de compétence, mais globalement, on a quand même des personnes dans la représentation, encore une fois, avant l'arrivée de ce Premier ministre, qui étaient quand même d'un certain âge et qui faisaient que on a ça participe au désintérêt des jeunes pour la politique. Alors c'est une question qu'on me pose encore une fois souvent, pourquoi les jeunes ne veulent pas s'impliquer dans la politique puisque leur avenir est si compromis, puisqu'ils font face à des difficultés matérielles aussi importantes, puisqu'ils sont si menacés par le réchauffement climatique. Mais alors là, je vais vous donner plusieurs raisons. Premièrement, les jeunes n'ont jamais autant voté que les plus âgés, depuis que la démocratie représentative existe. La jeunesse, c'est un moment où l'on se construit politiquement. C'est un moment de forte mobilité géographique, parce qu'on fait des études, parce qu'on va bouger pour son premier emploi, et donc on n'est pas forcément à côté de son lieu de vote, et donc on ne va pas forcément voter. Ça a toujours été le cas. Les jeunes ont toujours moins voté à ce moment-là de leur vie. On rajoute à cela aujourd'hui une certaine désinformation, ou en tout cas un manque d'éducation sur les questions politiques. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent juste pas quand se tiennent les élections, à quoi elles servent. Et en tout cas, moi, je prends mon cas personnel en sortant du lycée. Je suis désolée pour ma professeure d'éducation civique si elle écoute ça, mais je n'étais pas complètement informée sur ces enjeux-là. Ensuite, eh bien, on a encore cette sensation que la politique, c'est un truc de vieux. Et ça, c'est quelque chose qui a été marqué et qui a été accentué quand on a des politiques et des responsables politiques qui prennent une position verticale vis-à-vis de la jeunesse, voire autoritaire. Attention, petit quiz. Qui a dit « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu manques d'autorité, on t'apprend l'autorité » ? Est-ce que quelqu'un sait dans la salle ? Merci, quand même. Mon imitation est... Merci. Pas fait les études de théâtre pour rien. Bon. Quand on dit ça aux jeunes, ça donne pas envie de s'impliquer dans la politique, parce qu'on a l'impression que les personnes qui sont censées incarner ces institutions-là ont une posture descendante, verticale, voire carrément condescendante, méprisante vis-à-vis des jeunes. Et donc ça n'encourage pas cet investissement-là. Et ensuite, et je reviens en fait sur la raison principale pour moi, sur pourquoi les jeunes ne votent pas pour changer tout ça, c'est tout simplement la crise démocratique que nous vivons, qui ne touche pas que les jeunes. Et là, j'invite à regarder tous les travaux du sociologue Vincent Tibéri, qui a étudier ces différentes approches du scrutin en fonction des âges et qui montre très clairement qu'il y a un recul il y a une augmentation de l'abstention chez toute la population. À chaque élection, on a de moins en moins de gens qui veulent voter. Et donc les jeunes sont surreprésentés en pourcentage. En tout cas, ils sont surreprésentés parmi ceux qui ne veulent pas voter. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez des personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans. Et effectivement, ils montrent que le comportement électoral de la génération dite des boomers au sens sociologique du terme est différent parce que ils ont été socialisés en pensant que le vote n'était pas un droit, mais c'était un devoir. Les jeunes ont été socialisés, les jeunes d'aujourd'hui, en pensant que le vote était un droit, que c'est une manière de changer les choses. Et beaucoup d'entre eux pensent que pour changer les choses, eh bien, on ne vote pas. Que ce n'est pas la manière la plus efficace aujourd'hui de changer les choses. Et là, on en arrive à la politisation des jeunes. Alors, parce que les jeunes ne votent pas, est-ce que ça veut dire qu'ils s'en moquent complètement ? Eh bien, pas du tout. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une augmentation, par exemple, de l'implication des jeunes dans les associations. Je pense qu'il y en a beaucoup ici, à Grenoble, des jeunes qui sont impliqués. Et je vais même, attention, donner un chiffre qui ne plaît pas du tout. Aujourd'hui, depuis 2024, on a plus de jeunes impliqués dans des associations à but altruiste que de retraités, qui pourtant ont le temps de le faire. Alors, à nuancer, parce qu'il se trouve que apparemment les retraités seraient plus assidus dans leur implication dans les associations. Donc on va pas chipoter, mais c'est simplement pour vous dire que les jeunes sont impliqués, que beaucoup d'entre eux s'engagent, ne s'engagent pas en votant, ne s'engagent pas dans les partis politiques, mais par contre vont s'engager dans des associations, vont s'engager sur le terrain. Et ça, c'est ce que la politiste Sarah Picard appelle la « do it yourself politics ». C'est l'envie de faire de la politique, de s'impliquer dans le collectif, mais simplement lorsqu'on peut en voir les effets concrets. D'accord pour donner de mon temps, d'accord pour m'engager, mais seulement si j'ai confiance dans l'institution dans laquelle je m'engage et si je peux voir les effets de mon implication. Et ça vaut pour les associations, ça vaut aussi pour le boycott, ça vaut pour les manifestations. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui n'allaient pas voter, mais qui manifestaient. On pourrait se dire, aller voter, c'est a priori, c'est quand même encadré, tu ne risques pas de te prendre un flashball dans l'œil, tu ne risques pas de perdre beaucoup de temps aussi, ou de même finir au commissariat, et pourtant tu vas manifester et tu ne vas pas voter. Et bien pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont l'impression que c'est plus efficace d'aller manifester que d'aller voter, parce qu'ils ne croient plus, tout simplement, en l'efficacité des institutions politiques. Et alors, encore une fois, on peut discuter pendant des heures de pourquoi ils n'y croient plus, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de propositions pour les jeunes. En fait, on ne s'adresse pas aux jeunes, aujourd'hui. Beaucoup de partis, en tout cas, les oublient complètement. Il y a quelques partis qui ont vraiment proposé des choses en ce qui concerne les jeunes, mais il y en a de nombreux partis qui les oublient, ou, et là, encore une fois, je ne vise personne, mais qui vont faire une politique de la jeunesse à destination des vieux. Par exemple, 2 milliards d'euros dépensés dans le service national universel, qui est une réminiscence du service militaire. Évidemment qu'on peut discuter du bien fondé d'un tel dispositif, je ne suis pas du tout contre par posture ou par principe, mais est-ce qu'à un moment où on a ces taux de précarité, où on a cette crise écologique, où on a toutes les préoccupations que j'ai développées et je n'ai pas pu toutes les développer, il y en a encore de nombreuses autres, est-ce que vraiment la priorité c'est d'aller mettre des jeunes dans un dispositif qui coûte très très cher pour les mettre en ordre ? Cette idée de cohésion, cette idée d'une jeunesse qui se tient sage. Je pense que si je fais un petit test ici et que je demande aux moins de 30 ans quelle est vraiment la priorité en termes de politique publique, de quoi vous avez besoin, très peu vont me répondre un service militaire bis sans le militaire. Et pourtant, c'est un dispositif qui a été promu par une certaine présidence. Et on pourrait aussi penser au port de l'uniforme, à la restriction du port de l'abaya. À qui est-ce que ça plaît ? Ça plaît à un électorat qui est très nombreux, mais qui ne sont pas les jeunes. Et donc ça, à mes yeux, ça participe à faire en sorte que les jeunes n'aient pas envie d'aller voter, n'aient pas confiance en ces institutions, qui les oublient complètement, et donc qui aient envie de s'exprimer, de s'engager avec d'autres façons de se politiser, avec d'autres manières de s'impliquer. Et donc ça passe par l'associatif, ça passe par le boycott, ça peut même passer par le don, par le fait de donner de l'argent. Là, je prends souvent l'exemple du Z-Event, qui est quand même très éloquent. Le Z-Event, c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe sur la plateforme Twitch, qui est une plateforme de streaming qui est essentiellement fréquentée par des jeunes, c'est souvent produit par des jeunes, pour des jeunes, et c'est un espace qui, parfois, suscite beaucoup d'incompréhension de la part des plus âgés. Et chaque année, il y a tous les streamers les plus connus qui se rassemblent et qui vont streamer, donc souvent qui vont commenter des contenus ou qui vont jouer aux jeux vidéo en direct et qui vont lever des fonds pour des associations. Là, ces dernières années, c'était pour des associations écologistes et ils ont levé l'année dernière 10 millions d'euros. 10 millions d'euros auprès d'un public essentiellement jeune et donc précaire. Ça montre qu'encore une fois, c'est pas que les jeunes veulent pas faire de dons de soi. C'est qu'ils le font parce qu'ils ont confiance en la manière dont va être utilisé leur argent. Ça, c'est ce qui est revenu le plus quand j'ai interrogé ceux qui avaient donné, parfois qui étaient boursiers, qui avaient pas d'argent. Mais pourquoi vous avez donné ? Un, parce que j'aimais bien l'événement, j'aimais bien le streamer que je suivais. Et deux, parce que j'avais confiance en ce streamer. Et donc, on a des jeunes, pour une partie d'entre eux, qui ont plus confiance en leur streamer préféré qu'en un homme politique ou une femme politique. Et ça, c'est pas moins bien ou mieux, ou je pense qu'il faut juste le comprendre, pour comprendre que les jeunes n'en ont pas rien à faire, mais que dans beaucoup de manières d'aborder le collectif, ils le font juste de manière différente, et que pour ça, enfin pour réussir à faire société ensemble, eh bien on a besoin de considérer les jeunes, on a besoin de comprendre les jeunes, on a besoin de comprendre ces jeunesses, et je ne l'ai même pas précisé au début, mais d'habitude je le précise toujours, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Les jeunes n'échappent pas, encore une fois, aux questions de classe sociale. Il y a des jeunes très privilégiés, il y a des jeunes qui sont, au contraire, qui viennent de milieux très défavorisés. Il y a des jeunes de milieux ruraux, urbains, racisés, qui sont victimes de différentes discriminations et qui n'ont pas les mêmes vies. Mais en tout cas ces paramètres-là peuvent les rassembler et on a besoin d'avoir une compréhension collective de ces différentes jeunesses, de leurs différentes approches de la chose publique pour réussir à mieux faire société ensemble. Et donc, pour finir sur la mobilisation et l'engagement des jeunes, une des dernières manières de se mobiliser, et on la boucle parce qu'on revient au début avec la question de l'emploi, eh bien c'est de le faire via son emploi. Et là, ça suscite aussi beaucoup d'incompréhension. Comment tu n'as pas accepté ce CDI chez Total Energy, très très bien payé? Alors là encore, précaution oblige, c'est pas du tout tous les jeunes qui sont capables de s'engager via leur emploi. Et pour beaucoup de ces jeunes-là, ça va être des jeunes qui sont plutôt privilégiés, diplômés, qui ont tout simplement le choix. Parce que si le diplôme ne protège plus complètement contre le chômage, le diplôme protège quand même beaucoup plus contre le chômage que le fait de ne pas avoir de diplôme. Donc pour les jeunes qui sont les plus diplômés, qui sont sur les professions où il y a le plus de possibilités pour eux, eh bien il y a une partie d'entre eux qui vont faire le choix de changer de métier, ou en tout cas de choisir certaines entreprises parce qu'ils ne veulent pas participer à construire, ou à plutôt détruire, la planète sur laquelle ils habitent, ou tout simplement détruire aussi le tissu social, détruire les droits humains. Ça peut passer par beaucoup de dimensions, et donc il y a une partie, j'insiste, une partie de la jeunesse qui apporte beaucoup de considérations aux dimensions éthiques. En 2019, on avait une étude de l'INJEP qui nous disait que 59% des jeunes considéraient que le fait d'être utile à la société dans le cadre de leur emploi est important. Donc ça montre quand même qu'il y a une volonté de plus en plus marquée chez une partie des jeunes de s'engager via le travail, en fait. Pas forcément via le vote, mais de s'engager via le travail. Et c'est ça qui a donné lieu à des discours comme ceux d'AgroParisTech, à Polytechnique. On l'a retrouvé également à HEC, avec Anne-Fleur Le Goll. On l'a retrouvé à Sciences Po Paris, où on a des étudiants qui appellent à déserter le système dit écocidaire, qui appellent à changer ce système-là. Et souvent, ils ont été, là encore, accueillis comme de jeunes idéalistes, comme de jeunes, des jeunes qui seraient complètement déconnectés de la réalité. Moi, je pense que ces jeunes-là sont au contraire très, très impliqués, qui méritent un minimal respect, et en tout cas la curiosité de leurs aînés. Et parfois, c'est un peu difficile pour eux d'obtenir cette considération-là. Je terminerai sur les plus radicaux d'entre eux, les éco-terroristes, qui sont, là encore, suscitent beaucoup d'incompréhension. Quand on se demande, mais pourquoi les jeunes ne s'engagent pas? Pourquoi ils ne vont pas dans les partis politiques? Pourquoi ils ne se bougent pas? Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Premièrement, tous les jeunes ne se sont jamais engagés uniformément. En mai 68, il y avait plein de jeunes qui chillaient chez eux et qui n'étaient pas du tout en train de balancer des pavés à Paris. Je dirais même que c'était peut-être la majorité des jeunes. Et bien aujourd'hui, effectivement, on a une partie des jeunes qui s'engagent, une partie des jeunes qui ne s'engagent pas, mais on a quand même une bonne partie des jeunes qui s'engagent. Et quand ils s'engagent, attention, il faut que ce soit de la bonne manière. Il faut qu'ils restent dans le cadre. Et dès qu'ils sortent de ce cadre, c'est la sanction politique, c'est la sanction médiatique. Et ça peut aller extrêmement loin. On l'a vu notamment pendant les méga-bassines. C'était pas que des jeunes d'ailleurs, mais les jeunes sont quand même souvent en grosse représentation dans les manifestations écologiques. Et ils subissent parfois un traitement médiatique qui est extrêmement violent. Je pense notamment à Dernière Rénovation. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif. C'est un collectif qui milite pour l'isolation des bâtiments, qui est quand même censé être une des revendications écologiques pour éviter de trop polluer. Et les budgets de l'État en ce qui concerne l'isolation des bâtiments aujourd'hui ne sont pas suffisants. Donc ils militent pour plus d'isolation. Et pour ça, ils s'assoient au milieu de route. C'était cette jeune femme aussi, vous savez, qui s'était accrochée au filet du Roland-Garros pour faire une action coup de poing. On en pense ce qu'on en veut, mais la manière dont ces militants ont été reçus sur les plateaux de télévision était plus violente que la manière dont Gérald Darmanin est reçu sur un plateau de télévision. Et ça pose quand même question. Pourquoi on est si intolérant avec ces jeunes qui ne rentrent pas dans le cadre et qui essaient de s'engager? Donc, le message final que je voudrais adresser à tout le monde, c'est essayons de comprendre les jeunes. Essayons d'avoir à minima une forme d'indulgence ou de bienveillance avec eux. Et essayons de leur poser des questions. Moi, je n'ai jamais eu autant de facilité depuis que je suis journaliste à recueillir des témoignages. Pourtant, c'est pas toujours facile de recueillir des témoignages parce qu'on demande aux gens de parler de l'intime, de prendre du temps, de l'énergie, de nous faire confiance. Et quand je suis allée voir des jeunes et que je leur ai demandé de me raconter leur vie, de me raconter leurs préoccupations, leurs aspirations, eh bien, ils ont quasiment tous accepté sans hésiter. Et parfois, les entretiens ont duré des heures. Parce qu'en fait, ils étaient juste heureux d'avoir une écoute attentive, une écoute sans jugement. Et donc, si vous allez autour de vous parler aux plus jeunes et que vous leur demandez avec sincérité et sans jugement préalable de vous raconter leur vie, Il est très probable qu'il le fasse et il est très probable que ça engage le fameux dialogue intergénérationnel que j'appelle de mes voeux parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire reposer sur les épaules des jeunes les changements à venir. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un tournant historique, notamment à cause de la crise écologique. On est dans une situation extrêmement tendue au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau économique et donc au niveau écologique. Et on a besoin d'avoir un sursaut collectif et on ne peut pas... surtout pas s'opposer de manière générale d'ailleurs dans la société, mais encore moins dans les générations. Ce serait vraiment dommage. Et on a un besoin vital d'avoir ce sursaut collectif. Et ce sursaut collectif ne peut pas que venir des jeunes. Donc j'espère que vous entendrez ce message. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et alors là, c'est le moment des questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Là, c'est le moment des questions. Je vous demanderai de vraiment... particulièrement vous exprimer si vous n'êtes pas d'accord. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi du débat, d'avoir du dialogue. Je suis tout à fait ouverte à la contradiction. Et si vous avez été heurté par ce que j'ai pu vous dire, ou si tout simplement vous voyez des limites à mon raisonnement, eh bien, je serais très intéressée de l'entendre. Oui.
On va dire le merci des vieux pour vous, votre jeunesse. Alors j'ai plusieurs choses, je vais essayer de faire court parce que ce n'est pas évident. Ce que vous dites, de, par exemple mon cas... qui n'avait pas de, à l'époque, qui n'avait pas de CDD, pas de CDI, etc. C'est vrai qu'on a une position assez confortable, donc il faudrait des fois qu'on se penche un peu mieux sur ces jeunes. Deuxièmement, vous avez oublié de parler de la pénibilité qui a sauté, et vous dites que les jeunes, c'est encore plus pénible qu'avant pour beaucoup.
Et non, sur certains travaux, mais par mais exemple, on travaille pas avec de l'amiante, hein, il y a des différences.
Dans la réforme retraite, enfin, la pénibilité a sauté, hein. Donc ça, il faut le signaler. Après, je voulais parler des jeunes qui ne votent pas. Vous avez omis là le nombre d'élus corrompus. Nous, on en a exemple ici.
Merci, parce que j'en parle dans le livre.
Justement, les jeunes, je ne sais pas s'ils ont oublié ou s'ils ne savent pas, mais enfin, en tout cas, il y en a tous les jours, donc il y a de quoi se mobiliser. Et y a pas ça ne donne vraiment pas envie de voter, quoi, c'est sûr. Voilà, terminé.
Merci beaucoup, madame, parce que vous me permettez d'enchaîner justement sur un aspect que j'ai oublié et pourtant dont je parle dans le livre. Sur beaucoup de réseaux sociaux qui sont très fréquentés par les jeunes, il y a des mèmes de Sarkozy. Donc les mèmes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces espèces d'images un peu iconiques avec souvent une phrase en dessous, ou alors un tout petit extrait, parfois un gif, un tout petit extrait vidéo qui va circuler. Et il y en a beaucoup qui circulent sur les hommes politiques corrompus, c'est devenu une blague. Les trois quarts des jeunes ne sont pas capables de vous citer avec précision la liste des affaires de corruption, la liste des scandales d'État. Par contre, la plupart d'entre eux sont capables de vous en citer au moins une. Une qui les a marqués. Ou alors, tout simplement, une déclaration homophobe, une déclaration sexiste. Par exemple, les propos sur Gérard Depardieu ont beaucoup marqué une partie des jeunes, notamment des femmes, pas que des femmes d'ailleurs, mais des jeunes féministes. On n'est pas, sans même aller jusqu'à la corruption, les comportements décevants, en tout cas, ou les comportements qui montrent que les politiques ne sont pas au service de l'intérêt général, eh bien, ça a marqué beaucoup de jeunes. Et c'est presque devenu une évidence que les politiques sont corrompues. Quand on parle aux plus jeunes, pour eux, c'est évident que les politiques servent leurs propres intérêts et ne servent pas les intérêts de la majorité. Et ce qui fait, encore une fois, beaucoup de mal, c'est aussi la banalisation de ces scandales de corruption, de ces ministres qui sont mis en examen, et il y en a eu beaucoup pendant ce dernier quinquennat, qui ne sont pas démis de leurs fonctions. Et donc, cette tolérance politique qu'on a vis-à-vis des hauts responsables qui sont mis en cause dans des affaires judiciaires, eh bien... finit forcément par revenir aux échos des jeunes et pas que des jeunes, et ça crée cette rupture de confiance et ça participe à ça. Et je l'avais vraiment cité, il y a tout un bout dans le livre là-dessus, parce que c'est presque une blague quoi pour beaucoup de jeunes. C'est Balkany par exemple, énorme blague, il y a beaucoup de jeunes qui ont vu cette vidéo de Balkany qui danse alors qu'il vient de sortir de prison, et ça peut nous faire rire, mais ça n'aide pas à avoir envie d'aller voter, parce qu'on se dit qu'ils sont en toute impunité et qu'ils peuvent servir et continuer à servir leurs intérêts, et on gagnerait à avoir plus de probité en politique. Je ne suis pas la première à le dire, mais en tout cas, ça participe. Ce n'est pas du tout la seule cause, mais ça participe à cette perte de confiance.
Bonsoir.
Bonsoir.
Une citation, puis une question. Et je ne sais plus quel penseur avait dit que nous n'héritons pas de la planète, mais nous l'empruntons à nos enfants. C'est intéressant.
Très jolie citation.
Sinon, question, est-ce que vous ne pensez pas que la démocratie représentative a atteint ses limites ? et il faut passer à un autre système participatif, plus ou moins inspiré des Suisses ou autre chose, ou autrement, enfin, une autre forme de démocratie plus participative et plus représentative, puisque visiblement il y a trop de copinage, trop de problématiques.
Merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, là encore, ça concerne beaucoup les jeunes. Alors moi, mon rôle de journaliste n'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est plus de pointer les ressentis ou les résultats de mon enquête, là en l'occurrence sur les jeunes. Il y a des aspirations démocratiques très fortes chez les jeunes, et ça fait partie des valeurs qui leur sont chères. Et ça a été particulièrement frappant pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. Au début de la mobilisation, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans les rues. C'était avant tout les syndicats, les plus âgés qui allaient manifester. Et il y a eu un point de bascule. Ça a été l'utilisation du 49.3. Au point que même des influenceurs normalement totalement dépolitisés, des influenceurs comme par exemple Léna Situation, Sève Lafrite, qui vont parler aux plus jeunes d'entre vous, qui sont de véritables stars dans leur domaine, qui ne parlent jamais de politique, pour la première fois se sont exprimés en expliquant, je ne veux pas leur prêter des propos inexacts, mais globalement le message, c'est que c'était quand même une violation démocratique. Et ça, ça a mis des jeunes dans la rue. Et si vous vous souvenez bien, on a eu des reportages où tout le monde disait la même phrase dans le milieu médiatique, que les jeunes, c'est comme le dentifrice, c'est facile à faire sortir, mais c'est pas simple à faire rentrer. Et ça a créé une crainte. Ça a créé une espèce de panique chez une partie des journalistes, chez une partie des politiques, parce que soudainement, cette jeunesse s'était mobilisée. Et encore une fois, on est bien loin d'avoir une mobilisation générale des jeunes, mais en tout cas, on avait une surreprésentation à ce moment-là des jeunes dans ce type de manifestation qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Et ça, ça a été déclenché parce qu'on considérait être un abus de verticalité politique.
Bonjour, je voulais juste demander si vous parlez aussi de patriarcat et de sexisme dans vos travaux, vos recherches, parce que les jeunes subissent beaucoup de discrimination, mais les jeunes filles, je trouve que c'est quand même un peu plus.
Merci beaucoup de me poser cette question, parce que ça fait partie en plus des interrogations qui reviennent souvent. Est-ce que les jeunes sont tous woke, gender fluide, ultra féministes? Je ne dis pas qu'elles me sont posées en ces termes, mais souvent ça fait partie des inquiétudes, en tout cas qu'on a pu lire dans la presse citée au début, sur le fait que les jeunes seraient voilà, uniformément féministes. Donc il y a une sensibilisation clairement importante d'une partie notamment des jeunes femmes, et j'insiste sur le côté genré de la chose, aux questions d'égalité femmes-hommes, et d'ailleurs aux questions de lutte contre les discriminations de manière générale. Et c'est pour ça que d'ailleurs la pensée intersectionnelle a quand même beaucoup de succès auprès d'une certaine jeunesse qui a une conscience des rapports de domination et qui lutte contre, et qui parfois va avoir des moyens de militer qui sont quand même différents de ceux qu'ont pu avoir, ou en tout cas des causes qui sont différentes que celles qu'ont pu avoir nos mères, nos grands-mères, tout simplement parce qu'on a eu des droits qui ont été acquis et que maintenant on lutte pour de nouveaux droits, pour de nouveaux lieux où on peut avoir et obtenir l'égalité, la sécurité. Donc il y a cette jeunesse qui effectivement est particulièrement exigeante sur les questions de lutte contre les discriminations, mais, et attention, ce mais est important, c'est ce que nous a montré le dernier rapport du Haut Conseil pour l'égalité. Il y a également un retour en force des idées conservatrices et sexiste du côté notamment des jeunes hommes. Et ça, c'est vraiment important de le noter, parce que on peut pas mettre toute la jeunesse dans le même sac, et il est important de comprendre que les jeunes n'échappent pas à la polarisation qui est en train de caractériser notre société de manière générale. Et donc, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez genré et qu'on retrouve dans différents pays occidentaux. Ça a été mis en lumière par une étude qui est parue il y a 2 mois du Financial Times, qui rassemble 9 études sociologiques qui ont été menées dans différents pays et qui nous montrent globalement, attention, c'est des tendances, je suis désolée de mettre autant de précautions, mais c'est vraiment quand même fondamental, qui nous montrent que les jeunes hommes sont de plus en plus conservateurs et que les jeunes femmes sont de plus en plus progressistes. J'explique en partie ça, et c'est mon interprétation personnelle, par le succès des mouvements masculinistes, notamment en ligne. Dans le média pour lequel je travaille, à Blast, on a déjà produit des émissions sur le sujet où on a un succès difficile à mesurer, mais qu'on peut quantifier quand même en vues dans des vidéos qui cumulent des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, d'hommes qui vont expliquer, notamment à un public très jeune, de jeunes hommes, qu'on vivrait dans une sorte de matriarcat où les femmes voudraient prendre le pouvoir, où les femmes voudraient déclarer, notamment les féministes, voudraient déclarer la guerre des sexes, et qu'il convient donc de reprendre son pouvoir. Ça peut prêter à rire, mais c'est un phénomène très sérieux, et les chiffres du Haut Conseil pour l'égalité que j'ai pas en tête là sont quand même assez accablants. Il me semble que 38% des hommes se disent contre le féminisme. On a vraiment vraiment un retour de ces idées conservatrices, notamment en ligne, et donc ça crée cette polarisation qui fait que je peux pas vous dire si la jeunesse est féministe ou si elle est réactionnaire, parce qu'en fait il y a vraiment deux jeunesses qui cohabitent, mais le Haut Conseil pour l'égalité a vraiment tiré la sonnette d'alarme là en janvier 2024 en disant que c'était extrêmement extrêmement préoccupant et qui a nommé le mouvement masculiniste.
Bonjour.
Bonjour.
D'abord, merci pour votre travail.
Merci d'avoir écouté depuis la salle là-bas.
La question que moi je me pose par rapport à tout ça et par rapport à mon expérience personnelle, c'est comment renouer aussi le dialogue en étant jeune avec des personnes justement plus âgées, notamment surtout personnellement d'étant dans un milieu disons de gauche, même se retrouver avec des gauches différentes et justement cet aspect de complotisme et de New Age qu'on va aussi nous balancer sur la tronche en étant jeune et qu'on des fois on peut se perdre aussi dans nos idéaux personnels.
Difficile comme question. Alors déjà j'aurais un conseil vraiment fondamental à tous les jeunes de France. Ne prononcez jamais une phrase qui commence par « Ok boomer ». C'est vraiment la cause, je pense, de fracture familiale. J'ai remarqué que ça a beaucoup marqué des personnes. Je pense notamment à ce journaliste qui a écrit ce livre qui s'appelle « Ok Millennials » et qui explique dans le livre qu'un jour, sur Twitter, quelqu'un lui a dit « Ok boomer » et qu'il l'a très mal vécu au point d'écrire un livre de 300 pages. Donc attention à ce que vous faites. Blague à part, c'est un phénomène qui, je pense, a marqué beaucoup de personnes plus âgées en disant que c'était une marque d'insolence, une marque de défiance de la part des jeunes, qui est ce « Ok boomer » qui circule autant, qui est devenu effectivement une phrase du langage courant et qui a rencontré un vrai succès auprès des plus jeunes parce que c'était, ce serait la marque d'une volonté de ne pas communiquer. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est un peu un signe de ras-le-bol d'une partie des jeunes à travers le monde face à tous ces clichés anti-jeunes que parfois ils subissent, face à toutes ces injonctions, à toute cette condescendance parfois qu'ils subissent. Et donc, c'est devenu une espèce de blague pour désarmer ce phénomène-là en disant « Ok, boomer ». Mais effectivement, ce n'est pas constructif. Donc, je pense que la première étape, c'est quand même avant tout de montrer une certaine bienveillance, un certain respect. Bon, ça paraît évident et ça vaut pour toutes les générations. Mais parfois, c'est vrai que c'est difficile quand les discussions se tendent. Après, sur le pur plan argumentatif, et là, c'est presque un conseil personnel, je pense qu'il faut trouver des référents communs. Et c'est ça qui est difficile souvent dans un débat, c'est-à-dire de mettre de côté les affects, surtout dans des familles ou quand on a des liens avec des personnes, pour se concentrer sur les faits avec lesquels on est d'accord. J'ai beaucoup de débats sur l'écologie et souvent ce que je vais faire c'est mobiliser les travaux du GIEC en expliquant ce qu'est le GIEC et en étant sûr que mon interlocuteur ou mon interlocutrice est d'accord sur ce que sont les travaux du GIEC et en utilisant des références qu'on va avoir en commun et sur lesquelles on va être d'accord. Ensuite, je dirais que c'est vraiment, ça passe par le fait d'avoir lu des choses en commun, d'avoir regardé des documentaires, d'avoir écouté des podcasts en fonction des supports qu'on préfère. Par exemple, un excellent livre qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi » au hasard. Non, je plaisante bien sûr, mais moi c'est comme ça que je l'ai pensé et parmi évidemment la très très large documentation qui existe sur le sujet, c'est que ça peut dépassionner le débat quand on se dit « bah regarde ce documentaire » et après on en discute. Parce que je pense qu'on a rarement fait complètement chavirer quelqu'un sur le plan idéologique en un repas. Souvent ça va prendre du temps et ça va être une construction ou une déconstruction, je déteste ces termes, mais ça va être vraiment des changements qui vont mettre du temps à arriver et qui peuvent pas se faire si on se méprise, qui peuvent pas se faire quand c'est passionnel et qui peuvent, à mes yeux, passer, en tout cas moi je crois que c'est ça la clé, mais je sais, on verra si l'avenir me donne raison, mais par le biais du savoir, par le biais de l'apprentissage individuel. C'est quand même plus agréable quand vous regardez quelque chose et que vous avez la sensation de comprendre quelque chose par vous-même que quand votre enfant ou votre parent vous dit « c'est ça la vérité et maintenant il faut que tu comprennes ça ». Et ça peut, je pense, avoir beaucoup plus d'impact sur le long terme. Donc moi je dirais que c'est ma technique, mais ce que je constate c'est quand même que c'est pas toujours possible. Et parfois il y a un fossé qui est trop profond entre différentes personnes, donc on peut essayer de faire des petits pas, essayer de se retrouver sur certains sujets, mais on peut pas totalement changer quelqu'un. Moi, j'ai décidé personnellement de ne plus parler politique à table. Mais, dernière information, la première source d'information des Français, ce sont leurs proches. Donc, quand vous passez du temps à convaincre Jean-Michel, vous œuvrez pour la démocratie. Non, mais c'est vrai, c'est qu'en réalité, vous avez un pouvoir quand même très important de changement, justement, par ces discussions, par le conseil de certains documents. Et donc, ça a une vraie utilité, ces repas de Noël où on s'écharpe, si on arrive à réellement avoir des discussions constructives. Après, je comprends qu'on n'ait pas toujours l'énergie.
Merci. Moi, je me demandais si vous aviez comparé avec d'autres pays, parce que c'est quand même pas très réjouissant. tout ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a des endroits où ça se passe mieux? Est-ce qu'il y a des points d'explication d'autres pays, enfin de comparaison, qui peuvent donner des pistes et des espoirs un peu de...
Invitez-moi pour vos samedis soirs, je mets une ambiance de folie. Alors, je n'ai pas réalisé une étude comparative des différents pays, mais je sais que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs pays de l'Union européenne, par exemple. C'est les chiffres que je vous ai donnés sur la santé mentale, ils sont encore plus frappants, par exemple, chez nos voisins belges, où c'est les mêmes dynamiques. C'est des dynamiques qu'on a aussi en Allemagne. En Espagne aussi, on a de gros troubles de la santé mentale. Donc, globalement, je pense qu'il y a quand même une crise du côté de la jeunesse. Après, je ne suis pas assez informée sur le sujet et je n'ai pas réalisé une enquête assez profonde pour vous donner des informations précises. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer dans de nombreux pays. Moi, je pense qu'il y a une question aussi de minorité démographique. Et je pense que le fait d'être sous-représenté comme ça et d'être en minorité, ça n'aide pas. Mais vraiment, la question de la crise économique, de la crise écologique et de la crise géopolitique à laquelle on fait face, actuellement, c'est quasiment universel. C'est vraiment en train de toucher, je pense, beaucoup de jeunes. Après, il y avait eu une étude qui est déjà parue il y a quelques années qui comparait le degré de pessimisme et qui montrait que les jeunes Français faisaient quand même partie des plus pessimistes. Mais comme toujours, quand c'est une étude avec un sondage sur la base du déclaratif, je prends des précautions quand je les utilise, mais ça peut donner en tout cas peut-être un indice sur les tendances.
Bonjour. Bonjour, vous parliez de représentation politique ou de représentants politiques chez les jeunes et notamment du manque. Moi, je pense à un exemple, donc j'ai 17 ans, je suis sur les réseaux sociaux comme tous les jeunes de mon âge et je vois beaucoup passer des vidéos du député Louis Boyard qui est assez connu pour ses techniques de communication plutôt très efficaces. C'est lui qui a proposé d'inviter le meilleur blocus du lycée de France à faire une visite de l'Assemblée nationale ou qui fait des montages de ses interventions à l'Assemblée nationale qui font taire ses opposants. Est-ce qu'on peut quand même se poser la question de la légitimité de ces techniques de communication? Est-ce que, même si on peut les critiquer, est-ce que vous pensez que c'est quand même un moyen efficace de rassembler les jeunes, de ramener les jeunes vers la politique au sein du gouvernement plutôt que par la manifestation ou ce que vous évoquiez tout à l'heure? Merci.
Merci pour cette question parce que effectivement c'est un aspect que j'ai pas évoqué sur le vote des jeunes. Moi j'ai beaucoup parlé de l'abstention. Premier vote des jeunes à la dernière élection présidentielle, et ça va peut-être changer, on verra, c'était quand même un vote de gauche radicale, c'était un vote pour Jean-Luc Mélenchon, et puis pour la NUPES, c'était particulièrement frappant pendant les législatives. Juste derrière, on avait l'extrême droite, et le premier vote des jeunes, ça restait quand même l'abstention. Donc le point commun de ces trois approches du scrutin, c'est quand même le rejet du système actuel. C'est quand même la volonté d'un changement profond et radical. Parce que dans des manières très très différentes, c'est quand même ce que proposent, en tout cas dans le discours, ces partis-là. Et ensuite, je pense qu'il y avait aussi les deux partis en question sont des partis qui ont fait de vraies propositions pour la jeunesse, qui ont en tout cas dédié du temps à parler des jeunes, à essayer de parler aux jeunes. Jean-Luc Mélenchon avait vraiment une grosse partie de son programme qui était dédiée aux questions de jeunes. Sur le site de Marine Le Pen, on pouvait trouver vraiment tout un encart sur la jeunesse. Et ils ont des représentants, effectivement, qui sont aussi, qui savent manier quand même assez bien les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut quand même surtout pas penser que c'est juste grâce à TikTok qu'on gagne une élection. Et que les jeunes peuvent être consommateurs de ce type de contenu sans forcément y adhérer. Et le meilleur exemple de ça, ça reste quand même cet épisode avec McFly et Carlito du président de la République, non mais qui en vrai pour moi est une leçon de communication aussi politique et de conquête des jeunes, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est allé chez Hugo Décrypte, il est allé avec McFly et Carlito à l'Élysée, ce que n'avait fait aucun président. C'était évidemment une volonté d'utiliser des médiums pour parler aux jeunes, mais si derrière les jeunes ont l'impression d'être utilisés ou d'être en tout cas qu'on n'arrive pas à leur parler avec le bon discours, ça ne fonctionne pas. Et Emmanuel Macron a été très très loin pour le coup dans le vote des jeunes lors des dernières élections. Donc c'est, je pense, une des techniques qui peuvent être utiles si elles sont couplées avec des idées qui peuvent parler aux jeunes, mais ça peut pas être suffisant. Et le cas Louis Boyard, effectivement, est un cas de communication politique efficace du côté des jeunes, parce que c'est vrai qu'il semble quand même plutôt populaire. Il a vraiment réussi à leur parler. Dans le même style, il y a quand même le cas de Jordan Bardella, qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Et même du côté de la Macronie, pour le coup, on a eu un ministre qui était ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui était un vrai TikToker, qui avait beaucoup, beaucoup de succès. Alors, est-ce qu'il passait plus de temps sur TikTok qu'à gérer les transports de France? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a très bien fonctionné sur TikTok.
Et on peut dire que c'était une communication politique qui fonctionnait du côté des plus jeunes. Il suffisait d'aller regarder les commentaires sous ces vidéos, ce qui n'est pas le cas de la plupart des responsables politiques. Donc je pense qu'il y a des techniques de communication qui fonctionnent. Il y a certains responsables politiques qui arrivent à trouver une forme de popularité auprès des plus jeunes. Mais de là, est-ce que ça se transforme en déplacement pour aller voter le jour d'un scrutin, c'est quand même pas suffisant, en fait. Je pense que ça peut aider, mais c'est pas du tout suffisant et qu'il y a aussi ce qu'on va dire aux jeunes, de quoi on va leur parler, et le fond qu'on va leur proposer, tout simplement. Et je terminerai sur la question politique. Ce que nous montrent les différentes études, encore une fois, sociologiques qu'on a sur l'approche politique des jeunes, c'est que ce à quoi ils vont être sensibles, c'est les questions démocratiques, les questions de probité, on l'a dit, mais c'est aussi de leur parler avec pas seulement un programme qui concernerait leur petites conditions. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut parler des problèmes des jeunes, donc les questions de précarité, d'études, toutes ces questions-là. Mais ce que demandent beaucoup de jeunes, c'est aussi un horizon. C'est un avenir vers lequel se projeter. Et ça, ça ne passe pas qu'en donnant un chèque étudiant, en fait. Ça, c'est aussi de le prendre en question, par exemple, les considérations écologiques. Et vraiment, l'écologie, si tous les jeunes ne sont pas écolos, je le répéterai jamais assez, il y a quand même une partie des jeunes pour qui c'est très important. Et quand on veut faire une politique qui parle aux jeunes, on ne peut pas leur proposer que de résoudre leurs problèmes personnels sur le coup. C'est aussi leur proposer une planète habitable, par exemple.
Bonjour, moi aussi, ma question, elle porte sur les réseaux sociaux. Je suis au lycée aussi et j'ai l'impression qu'avec l'omniprésence des réseaux sociaux, l'importance qu'ont pris les influenceurs, les jeunes sont de plus en plus justement influencés par ces gens-là. Et si on reprend par exemple l'exemple de Seb Lafrit et de Léna Situation, est-ce que c'est pas un peu inquiétant qu'il ait fallu que ces gens-là s'expriment pour mobiliser les jeunes ?
C'est une vraie grosse question à laquelle j'ai pas de réponse binaire, mais qui mérite, dont j'ai pas parlé aujourd'hui parce que je suis obligée de sélectionner quand même un minimum des parties. Le numérique prend beaucoup de place dans la vie des jeunes. Et j'ai consacré tout un chapitre à la question du rapport des jeunes à Internet et notamment aux influenceurs parce qu'ils jouent effectivement une place de plus en plus centrale. Et ça, ça fait partie des incompréhensions générationnelles. C'est comment tu peux suivre un type qui joue aux jeux vidéo toute la journée, t'es complètement stupide. Et ça, ça crée vraiment des tensions, ou en tout cas l'idée que les jeunes seraient un culte ou consommeraient une culture qui est moins bien que le reste de la culture. Donc je rappelle que ce que produisent les influenceurs, ça fait quand même partie de la culture populaire aujourd'hui. Ça fait partie de ce qui est consommé par beaucoup de jeunes, et effectivement, quand il y a des influenceurs qui se politisent, ça a beaucoup d'impact. Et ils ont effectivement beaucoup plus confiance en leur influenceur préféré, ils vont être beaucoup plus sensibles à ce que va leur dire leur influenceur préféré qu'un homme ou une femme politique. C'est vraiment effectivement important de le noter. Alors moi, j'y vois deux aspects à développer de manière générale sur ce modèle d'Internet auquel beaucoup de jeunes adhèrent, à cette consommation du contenu qui est produit par les influenceurs, c'est que ça fait rêver dans un monde où on n'arrive plus à rêver. Est-ce que propose beaucoup de ces influenceurs, c'est un monde où en fait il n'y a pas de problème, c'est pas notre monde. C'est le monde où on arrive à accéder à l'ascenseur social. La rhétorique méritocratique via Internet est une rhétorique qui est extrêmement présente dans le discours des influenceurs. C'est-à-dire que beaucoup vont se mettre en scène en train de faire des efforts. Et j'en cite plusieurs dans le livre qui vraiment se mettent en scène, font des vidéos entières où ils expliquent qu'ils sont partis de rien. Où ils se montrent en vidéo, en train de faire des vidéos dans leur chambre à 14 ans, à 15 ans, voire même plus jeunes, et qu'aujourd'hui ils sont multimillionnaires, très connus, et en train de vivre une vie de rêve et de réaliser beaucoup de choses. Et en fait, ils mettent en scène ces trajectoires qui s'adressent à des jeunes qui sont catapultés dans un monde que je vous ai décrit, qui est un monde économique extrêmement sombre, où on a l'impression qu'on n'arrive plus à accéder à une ascension sociale. Et même si les jeunes ne théorisent pas tous avec une structure politique, ce que leur disent ces influenceurs, c'est quand tu veux, tu peux. Et j'appelle ça les nouveaux self-made men dans le discours, encore une fois, parce qu'en réalité c'est quand même plus compliqué que ça. Et évidemment, pour quelques influenceurs, il y en a énormément qui n'y arriveront pas et qui vont passer énormément de temps à le faire. Et en fait, ce qu'on constate, j'irai même au-delà de la question des influenceurs, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes, et je pense que c'est à prendre très au sérieux, qui passent beaucoup de temps à consommer les contenus des influenceurs, mais qui passent aussi de plus en plus de temps à produire du contenu eux-mêmes. Et ça, souvent, même les parents ne le savent pas. Et il y a plein de jeunes qui font ça à côté de leurs études, ou à côté de du lycée, ou à côté du travail, parce qu'ils pensent qu'il est plus rentable de faire des vidéos sur TikTok, de faire des vidéos sur YouTube, de commencer à streamer, ou même de passer par d'autres moyens, des paris sportifs, des investissements dans le Bitcoin, en tout cas beaucoup de choses qui se passent sur les plateformes numériques, que de faire des études. Je caricature, évidemment c'est pas tous les jeunes comme ça, mais il y a cette mentalité qui est de plus en plus présente. Et ce que nous disent les influenceurs la plupart du temps, c'est vraiment que personne n'y croyait, et que c'est vraiment, si vous avez vu le documentaire sur Squeezie, c'est la rhétorique qui est mobilisée. Et c'est son parcours qui est montré, c'est-à-dire quelqu'un en qui personne ne croyait et qui va y arriver par la force de son travail, de sa motivation, de son obstination. Et en fait, ça fait rêver. Peut-on vraiment vouloir à beaucoup de jeunes d'adhérer à ce type de figure-là, en plus avec, on rajoutera, la proximité qui est créée, qui est parfois factice, avec ces plateformes-là, où on a l'impression de les connaître, où on a l'impression qu'on peut leur faire confiance, qu'on les on suit chaque étape de leur vie personnelle. Et donc moi, je pense que ces influenceurs, ils fonctionnent avant tout parce qu'ils font rêver beaucoup de jeunes et qu'ils les c'est pas que du pur divertissement, c'est aussi une vision du monde qu'ils promeuvent, qui est un monde. Et alors il y a 50 nuances d'influenceurs de contenus qui sont proposés, mais si on prend la partie télé-réalité qui parle pas du tout à tous les jeunes, hein, ce qui leur parle, c'est pas tant la télé-réalité que le mode de vie après qui va être promu, qui est un mode de vie où il y a pas de crise écologique, il y a pas de crise économique, on est à Dubaï, j'insiste, c'est une partie des influenceurs, c'est pas du tout tous les influenceurs qui font ça. Bah évidemment, ça parle aux jeunes, et ces influenceurs là n'ont pas intérêt à se politiser, puisqu'ils arrivent à garder une audience très très large, et qu'évidemment la politisation ça fracture et qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Mais il y a des mouvements de plus en plus importants sur les réseaux sociaux, notamment du côté de l'écologie, qui consistent à aller mettre massivement dans des commentaires, sous la publication d'un influenceur, que ces billets d'avion qu'il fait gagner, c'est irresponsable. Et donc on a des petites quand même modifications de ce côté-là. Mais encore une fois, les jeunes ne sont pas du tout en rupture avec le modèle consumériste. Pas du tout. Ils sont inquiets, il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a une volonté de trouver sa place, mais je pense que pour une bonne partie des jeunes, ils sont juste perdus, et que c'est aussi, je terminerai avec ça, une manière de se sociabiliser très importante que de suivre les influenceurs, que d'être sur ces réseaux sociaux-là, qui en plus sont très addictifs. Vous avez peut-être vu passer ce matin l'actualité sur TikTok, qui va vraiment assumer le côté addictif de sa plateforme. Bien, ça permet aussi de parler avec des amis, d'avoir ces sujets en commun, qui font encore une fois partie de la culture politique. Donc pour juste sur la question, est-ce que c'est inquiétant que les gros influenceurs se politisent pas. Je pense que c'est pas à moi en tant que journaliste de dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, mais ce qu'on constate, c'est que ça n'encourage pas à la politisation, la plupart du temps, la manière dont ils produisent des contenus.
Oui, moi je me demandais, est-ce que vous avez exploré le côté un peu psycho, enfin, qu'est-ce qui amène un individu à un moment donné à stigmatiser les jeunes alors que lui-même a été jeune. Enfin, est-ce que c'est... Enfin,
est-ce que c'est une grande question.
Je sais pas, est-ce que c'est de l'ordre de l'oubli ou est-ce que c'est une nostalgie?
Merci pour cette question. Parce qu'en fait, la question derrière, et c'est une question que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce qu'on est condamné à devenir des vieux cons? Ça se trouve, dans 40 ans, vous me retrouvez avec soit vieux et tais-toi. On ne sait pas. La réponse est évidemment que non. J'ai exploré effectivement cette dimension psychologique parce que ce que je n'ai pas précisé au début de la conférence, c'est que les plus âgés ont toujours critiqué les jeunes. Ce n'est pas du tout nouveau, ce n'est pas propre à notre époque. On retrouve des traces de cette critique dans des écrits de Socrate. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça traverse vraiment les siècles et que les critiques sont les mêmes. Les critiques sont toujours que les jeunes sont paresseux, qu'ils sont incultes, et que c'est une jeunesse décadente, impertinente. C'est toujours ces trois axes-là qui sont mobilisés. Et donc, il y a eu une étude qui a été menée à l'Université de Californie et qui montre qu'on a ce biais psychologique pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on compare les jeunes d'aujourd'hui à notre jeunesse à nous, qui est une jeunesse très propre à notre individualité. C'est-à-dire qu'encore une fois, aucun d'entre nous ne représente toute sa génération. On représente toujours une partie notre génération. Donc comparer des jeunes qui n'ont rien à voir avec notre milieu social, des jeunes d'aujourd'hui avec nous, notre jeunesse d'hier, ça n'a absolument aucun sens, déjà. Et ensuite, parce qu'il y a un biais psychologique, donc là, je m'appuie vraiment sur cette seule étude que je cite au début du livre, c'est pas comme si on avait foison d'études sur le sujet, donc je dirais que ça reste quand même une hypothèse, qui nous dit qu'on a un biais dans nos souvenirs et qu'on a tendance à se souvenir du positif. Et donc, je suis désolée, on a tendance à idéaliser notre jeunesse et notre époque. Et on compare les jeunes d'aujourd'hui qui sont réels, qu'on peut regarder, qu'on peut documenter, avec une jeunesse qui n'a pas existé, une époque qui n'a pas existé, parce que par définition, nos souvenirs sont biaisés. Et donc je crois que ça participe à expliquer pourquoi, de tout temps, les plus âgés ont été, peut-être parfois, une partie d'entre eux, en tout cas si virulents avec les plus jeunes. Et je rajouterai quelque chose d'évident, c'est qu'il y a des ruptures dans les pratiques. C'est particulièrement frappant depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la création d'une culture de masse dans les années 60 pour les jeunes, avec des vraiment des objets culturels dédiés, où il y a eu vraiment une rupture dans ce qu'on consommait, ce qu'on lisait, ce qu'on écoutait en fonction de sa génération. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas avec TikTok. Je pense que c'est un bon exemple, parce que même moi qui ai 28 ans, c'est pas ma génération. Et je vois bien que je suis pas complètement, je comprends pas complètement ce que font les plus jeunes aujourd'hui, notamment les lycéens. Je me suis inscrite sur TikTok pour le livre. Donc je n'avais jamais été sur cette plateforme avant. Et je ne vous cache pas, je ne devrais pas dire ça dans un podcast enregistré, ça va m'être ressorti un jour, mais je ne vous cache pas que vraiment ma première impression de cette plateforme, c'est « cette génération est perdue, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur !» Et en fait, après, évidemment, je me suis forcée à dépasser ce biais et à vraiment poser la question de la pratique de TikTok aux jeunes, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler, mais en fait, on est vite dépassé. Et souvent, l'attitude qu'on peut avoir envers les plus jeunes résulte aussi d'une pure incompréhension et d'une pure différence de pratique. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Salomé Sacquet, journaliste et autrice de « Sois jeune et tais-toi », une enquête sur les conditions climatiques et sociales auxquelles font face les jeunes. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.